Alors nous voici au dimanche matin, jour du Seigneur, et on continue ce circuit géologico-liturgique sur les collines qui entourent Jérusalem pour approfondir le mystère de Jérusalem comme lieu saint au singulier. Il faut s'installer sur le mont Scopus, sur le mont des Oliviers. Il y a des jardins qui ont été faits là, et dont on contemple Jérusalem dans la lumière du matin, qui est, c'est le paysage le plus riche de signification dans le monde entier. Alors vous vous rappelez hier l'événement qui a donné à Jérusalem sa signification, c'est David qui danse devant l'arche et qui, après la conquête de Jérusalem, l'amène solennellement, si on peut dire, à Jérusalem. Eh bien, maintenant, vous avez un récit diamétralement opposé. Lors de la révolte d'Absalom, justement sur cette montée qu'on voit, qu'on appelle la montée des Oliviers, là-bas entre le mont des Oliviers et le mont Scopus, c'est par là que David, lors de la révolte d'Absalom, s'enfuit vers les passes du désert de Juda. Et tandis que d'un côté, c'était l'exultation, la danse délirante, ici au contraire, ce sont les grands sanglots. Quelqu'un va informer David, au chapitre 15 du livre de Samuel, que le cœur des gens d'Israël était passé à Absalom. Et David dit, fuyons. Le roi sortit à pied avec toute sa famille. Il sortit à pied avec tout le peuple. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. On a le cédron devant nous que David a dû traverser pour monter cette montée des Oliviers vers le désert de Juda. 600 hommes défilaient devant le roi. Alors tout le monde dit, je te suivrai partout où tu iras, pour la mort, pour la vie. Et tout le monde pleurait à grands sanglots. Le roi se tenait dans le torrent du cédron et tout le peuple défilait devant lui en direction du désert. Alors il se passe ici quelque chose qui est très important. Alors, le prêtre pense que l'arche aussi doit quitter Jérusalem. Et le roi dit à Sadoc, rapporte en ville l'arche de Dieu. Si je trouve grâce aux yeux de Dieu, il me ramènera et me permettra de le revoir ainsi que sa demeure. S'il me dit, tu me déplais, me voici, qu'il me fasse comme bon lui semble. Et voyez-vous, l'arche a donné à Jérusalem sa signification et elle ne doit pas quitter Jérusalem. Alors David, ici, il y a une sorte d'agonie de David pendant ses On voit ici la basilique de la Gethsémani, mais il y a aussi une agonie de David. Qu'est-ce qu'elle est devenue, l'arche d'alliance ?
À la fin.
Où est-ce qu'il est passé ? Eh bien, c'est très curieux. Lors de l'exil à Babylone, là, on fait l'inventaire de tout ce que les Babyloniens emportent. Tout le matériel de culte, du temple, on parle de tout, et on ne parle pas de l'arche d'alliance. Maintenant, il y a une curieuse tradition. Nous, catholiques, nous avons le deuxième livre de Maccabée dans le canon des Écritures, et au chapitre 2 de ce deuxième livre de Maccabée, on trouve que le prophète Jérémie, averti par un oracle, se fit accompagner par la tente et l'arche lorsqu'il se rendit à la montagne où Moïse, étant monté, contempla l'héritage de Dieu. Le monde est beau. Arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme de grotte et il y introduisit la tente, l'arche, l'autel des parfums, puis il en obstrua l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons, étant venus ensuite pour marquer le chemin par des signes, ne purent le retrouver. Ce qu'apprenant, Jérémie leur fit des reproches. « Ce lieu sera inconnu, dit-il, jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple. » Le kibbutz à Galuyot. C'est le mot kibbutz, il a une signification biblique très profonde. Le rassemblement de son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors, le Seigneur manifestera de nouveau ses objets, la gloire du Seigneur apparaîtra, ainsi que la nuée, comme elle se montra au temps de Moïse, vous vous rappelez, à la fois lorsque le sanctuaire est achevé, la nuée vient et la présence divine envahit le sanctuaire, et quand Salomon pria pour que le saint lieu fût glorieusement consacré. Et c'est très curieux cette histoire-là, c'est d'autant plus curieux que Jérémie a l'air de relativiser l'importance de l'arche. Au chapitre 3 de Jérémie, le prophète dit, « Tant vous vous serez multipliés dans le pays, en ce jour-là, on ne dira plus, arche de l'alliance de Dieu. On n'y pensera plus, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en préoccupera plus, on n'en construira plus d'autres. En ce temps-là, on appellera Jérusalem, trône de Dieu, et toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom de Dieu, à Jérusalem. » L'arche, au fond, a rempli son rôle ici à Jérusalem, elle peut disparaître. C'est Jérusalem elle-même qui devient le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Mais alors, il y a une chose qu'on doit apprendre dans la Bible. Il y a une chose qu'on sait déjà, c'est qu'on n'enferme pas Dieu dans un temple fait de main d'homme. Vous rappelez, Salomon savait bien. Et fais-moi un sanctuaire que j'habite parmi eux, mais pas pour que j'habite dedans. On n'enferme pas Dieu non plus dans une idée. Notre Dieu n'est pas le Dieu des philosophes. Il serait plus petit que l'idée qu'on se fait de lui. Mais il y a une chose sur laquelle il faut méditer aussi, c'est qu'on n'enferme pas Dieu non plus sur une interprétation dans une interprétation qu'on se ferait de ses promesses. Et ça, il faut, on a tous beaucoup à apprendre. On a tous beaucoup à apprendre. On n'enferme pas Dieu dans une interprétation de ses promesses. Hein. On ne le met pas en cage pour le faire chanter, si vous voulez. Or ici, nous avons dans le paysage, nous sommes au premier plan pour lire, pour comprendre un des grands rythmes de toute l'histoire biblique. La présence de Dieu quitte le temple, elle va sur la montagne qui est à l'orient de la ville, le mont des Oliviers là. Et puis là-bas, elle part en exil, et puis elle revient d'exil sur le mont des Oliviers, et elle fait sa rentrée dans le temple. Il faut encore reprendre ce grand visionnaire d'Ézéchiel pour nous faire comprendre cela. Ézéchiel est amené à parcourir le temple qui est corrompu par toutes sortes d'abominations. Et alors la gloire de Dieu sortit de sur le seuil du temple et s'arrêta sur les chérubes. Les chérubes levèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre à mes yeux en sortant les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du porche oriental. Et alors Dieu part en exil où il se fait comme un sanctuaire quelque temps. Mikdash Me'at. La gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne qui se trouve à l'orient de la ville. Et l'Esprit m'enleva et m'emmena vers les Chaldéens, vers les exilés. Et on trouve dans certains manuels de théologie un peu au rabais, et même dans certains chapeaux là, dans les livres liturgiques, enfin la religion s'élargit. On n'adore plus seulement Jérusalem, etc. Eh bien, c'est ignoré que tout livre d'Ézéchiel, le retour de Dieu dans le temple est affirmé avec autant de force que son départ. Écoutez ce qui est dit au chapitre 43, il me conduisit vers le porche qui fait face à l'Orient, et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait du côté de l'Orient. Un bruit l'accompagnait semblable au bruit des eaux abondantes, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à la vision que j'avais eue lorsque j'étais venu pour la destruction de la ville et aussi à la vision que j'avais eue sur le fleuve Kébar. Je tombais la face contre terre. La gloire de Dieu arriva au temple par le porche qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur et voici que la gloire de Dieu remplissait le temple. J'entendis quelqu'un me parler depuis le temple tandis que l'homme se tenait près de moi. On me dit, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds, j'habiterai au milieu des Israélites à jamais. Et de même qu'au désert, on a vu le peuple se structurer autour de la présence divine au centre, et bien ici, à la fin du livre d'Ézéchiel, on voit toutes les tribus se restructurer autour du temple reconstruit, et ça se termine comme un coup de gong, le livre d'Ézéchiel, le nom de la ville sera désormais « Dieu est là ». Adonai Shammah, à tel point que quand on dit Sham, on évoque Yerushalayim. Hammakom Shebarapo Elohim Kdelo Shaken et Shemo Sham, le lieu au singulier que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et alors un des plus beaux textes, Jérusalem est orientée vers l'Orient, dans une attitude d'attente là. Et elle est toujours dans une attitude d'attente entre l'exil et le retour. C'est très important cette histoire-là. Et le père Congard disait que, en bonne théologie, si un problème était posé en dehors de cette attitude d'attente entre l'exil et le retour, c'est pas la peine de continuer, on est à côté de la plaque. C'est une histoire d'amour aussi, c'est le rythme de l'histoire d'amour, et c'est pas par hasard que le Cantique des Cantiques est là. Au plein milieu, c'est le seul langage qui soit capable d'exprimer la complexité de cette aventure. Le plus beau texte, peut-être, sur l'espérance de Jérusalem tournée vers l'Orient, se trouve dans un livre qui n'est pas dans la Bible hébraïque, le livre de Baruch. On raconte que le poète La Fontaine est sorti un jour en déshabillé, et il interpellait tout le monde dans les rues en disant « Avez-vous lu Baruch ?» Je vous lis ce texte ruisselant de beauté. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Regarde, ils reviennent les fils que tu vis partir. Ils reviennent rassemblés du levant au couchant sur l'ordre du Saint jubilant de la gloire de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Car Dieu veut montrer ta splendeur partout sous le ciel et ton nom sera de par Dieu pour toujours paix de la justice. Ça rappelle l'engagement de Melchisedec. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. vois des enfants du couchant au levant rassemblés, sur l'ordre du Saint, jubilant, car Dieu s'est souvenu. Il t'avait quitté à pied sous escorte d'ennemis, mais Dieu te les ramène, portés glorieusement comme un trône royal. Car Dieu a décidé que soient abaissées toutes hautes montagnes et les collines éternelles, et comblées les vallées pour aplanir la terre, pour qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu, et les forêts, et tous arbres de senteur feront de l'ombre pour Israël sur l'ordre de Dieu, car Dieu guidera Israël dans la joie et à la lumière de sa gloire avec la miséricorde et la justice qui viennent de lui. On voit un rassemblement ici de gens de toutes les couleurs là. C'est tout à fait Jérusalem. À mon avis, c'est pas la peine d'interrompre l'enregistrement. C'est tout à fait, ça ne fait qu'orchestrer. Enfin, cette polarisation du monde entier vers Jérusalem. Bon, alors ce que je voudrais, c'est vous montrer que ce rythme d'attente entre l'exil et le retour, eh bien, c'est encore le sens premier, c'est dans le Nouveau Testament. La vision d'Ézéchiel, manifestement, était dans l'esprit de Saint Luc lorsqu'il a rédigé à la fois la finale de son évangile et le début des Actes des Apôtres. Je vous lis la finale de Saint Luc. Par la gloire de Dieu qui quitte Jérusalem, qui va sur la montagne qui est à l'Orient, qui part en exil et puis qui reviendra comme il est venu. Il les emmena jusque vers Béthanie. Béthanie est derrière le mont des Oliviers à l'est. Et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. C'était constamment dans le temple à louer Dieu. Tout commence dans le temple, dans Saint-Luc. Et puis tout finit dans le temple. Et alors, dans les Actes des Apôtres, début des Actes des apôtres qui se réunissent et l'interrogent, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Et Jésus ne dit pas « Tout ça, c'est fini, bon, ça c'est compliqué. » Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et alors, à ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Il leur dit, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » On ne peut pas mettre entre parenthèses tous ces langages. Comment ça se résoudra ? J'en sais rien. Encore une fois, faisons à Dieu la politesse de connaître ses promesses. Mais gardons-nous aussi de ne pas les enfermer dans des interprétations simplistes que nous ferions en fonction de nos engagements, de nos appartenances, de nos symbioses, toutes sortes. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les derniers jours de Jésus, avant sa passion et sa résurrection, se déroulent dans le paysage que nous avons sous les yeux. Et depuis la transfiguration, se tournant qu'on a pris au flanc de l'Hermon, là-bas au nord du pays, tout s'inscrit dans le cadre d'une montée à Jérusalem, principalement dans Saint-Luc. On a suivi toutes les étapes de cette insistance de Jésus qui durcit sa face vers Jérusalem. Je le reprends dans ces dernières étapes. Donc, quand il fut proche de la ville, à la vue de la ville, il pleura. Ah, si en ce jour, tu avais compris, toi aussi, le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Entré dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs, en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, et vous en avez fait un repère de brigands. Il était journellement à enseigner dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens, jusqu'à ce que soit accompli le temps des païens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Pendant le jour, il était dans le temple à enseigner, mais la nuit, il s'en allait la passer en plein air sur le mont dit des Oliviers. Et dès l'aurore, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'écouter. Et un des plus anciens sanctuaires de l'époque byzantine se trouve là sur le flanc des monts des Oliviers. Il y a une église qu'on appelle les Léonas, et puis on vénère sous cette église, dans la crypte, une grotte qu'on appelle la grotte des enseignements. Jésus, après avoir enseigné dans le temple, a traversé le Cédron, quelquefois il campait tout simplement dans le jardin de Gethsémani, là au fond de la vallée. Il résidait à Béthanie, chez son ami Lazare, Marthe et Marie. Et alors, après des discussions quelquefois épuisantes dans le temple tout au cours de la journée, il reprenait ce chemin avec les disciples. Et alors, de bouche à oreille, il leur parlait. et s'y poser des questions sur la fin des temps. On a localisé là les enseignements de Jésus sur la fin des temps. Bon, l'esprit se projette vers l'oméga de l'histoire. Et c'est là aussi que, d'après la tradition, là, il aurait révélé aux apôtres comment il fallait prier. Bon, le Notre Père est dans un cloître qui appartient à un couvent de carmélites, là, et dans plus de 50 langues, je crois, non, dans un petit cloître, là, Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez la signification de ce paysage, là. Voilà tout ce qu'on peut dire quand on est sur la montagne qui est à l'orient de la ville et qu'on regarde Jérusalem le matin. Et normalement, ça se traduit par une prière, par l'aude, et dans les groupes, là, tous sont dans le répertoire des chants sur Jérusalem. Mais vous voyez comment l'intelligence qui, hier, se projetait vers l'alpha de l'histoire, maintenant est en train de se projeter vers l'oméga de l'histoire. Alors, diamétralement opposé, nous avons là la montagne de l'ONU où nous avons tout commencé. Et c'est là que nous allons terminer. Je ne parle pas de la route d'Emmaüs qu'on fait après. Toute la route de l'exemple sur des routes d'Emmaüs quand on a compris, quand on a un petit peu pressenti le mystère de Jérusalem. Ici, nous sommes à l'heure de l'Aude. On descend dans le Cédron vers la source de Giron, le canal d'Ézéchias, la piscine de Siloé. Là, c'est l'heure de Tierce. Et puis ensuite, alors, après avoir célébré l'Eucharistie, on grimpe là-bas. Il y a une magnifique promenade qui a été aménagée dans les derniers mois sur la bordure là-bas, au sud et à l'ouest de Jérusalem, et qui permet d'accéder à une petite forêt qui est devant le palais de l'ONU. On a ce point de vue merveilleux que vous connaissez déjà, puisque c'est par là qu'on a commencé, et c'est là qu'on termine.
Et maintenant, il a pris toute sa signification.
Eh oui. Eh oui. Enfin, c'est encore très mystérieux tout ça, mystère de Jérusalem. Alors, on va continuer cette liturgie là sur les collines qui entourent Jérusalem. Puis, après Tierce, cela, aller faire cet office de lecture devant Jérusalem.
Alors, ce qui m'étonne, Jacques, c'est que dans ce paysage, tu ne nous parles pas de la procession des rameaux.
En effet, ça vient d'un oubli, ça, c'est un oubli. On l'a fait plus depuis 2 ans à cause des circonstances, là. Et moi, je regrette un petit peu qu'il manque l'âne. Ouais. Il faudrait que le patriarche monte sur l'âne, donc, comme Jésus. Et l'âne, c'est un personnage messianique. Dans la table des matières, ici, de Jérusalem, il y a des renvois pour les réalités principales. Là. Entre anciens et anges, il n'y a pas de référence pour l'âne. Et c'est dommage, c'est un personnage messianique. J'en ai fait l'expérience, ça m'a rappelé une histoire, il y a une vingtaine d'années, là, on m'a demandé de faire des cours de recyclage, c'était juste après la guerre des 6 jours, tous les lieux saints, d'un seul coup, les guides israéliens ne les connaissaient pas, il fallait qu'il y ait un minimum de connaissances, ils ont regardé mon dossier, j'étais passé à l'école biblique, alors bon, j'ai ressorti un peu mes cours du Père Benoît, et je rappelle, sur le mont des Oliviers, j'ai dit comme ça, vous savez, tout le messianisme de Jésus, c'est cette histoire de l'âme. Ils ont commencé par rigoler. Et puis j'ai cité Zacharie, hein, comme l'évangile, là, exulte avec fort, fils de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, humble, monté sur un âne, sur un âne, petit nanès. Je commençais à citer en hébreu, Guilimot, Bat Sion, c'était en hébreu, et ils continuaient, bah, ils avaient appris à l'école, et c'est ça qui est formidable, c'est que bah, on doit expliquer aux chrétiens des choses qu'ils pigent spontanément. Et c'est vrai que le messianisme de Jésus, c'est extraordinaire, ce contraste entre la vision d'Ézéchiel, les kéroubes, et puis l'humilité de l'âne que Jésus, et il le fait certainement intentionnellement, en fourche pour faire son entrée solennelle à Jérusalem, qui mange des rameaux. Oui, tu as raison de me poser cette question, ça aurait été un oubli, ça aurait manqué.